Eh bien, chers amis, j'aime à vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Et je voudrais savoir si vous avez tous reçu le petit papillon jaune, là. Tout le monde le possède. Il vous donne quelques renseignements sur le déroulement de cette dernière retraite de l'année 98. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent pour la première fois? Merci. Alors, mes amis, nous avons l'habitude de nous laisser accueillir ensemble par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui vous accueille, mais c'est lui qui vous accueille et qui m'accueille aussi. Nous sommes des frères, des sœurs, et si vous êtes ici, c'est certainement parce que vous désirez apprendre à connaître l'Écriture sainte. Et chaque fois que nous nous sommes réunis dans ce lieu providentiel, c'est le Seigneur Jésus qui nous a accueillis. Et vous avez sur le tableau le thème général qui vous est rappelé et qui a été celui de toute l'année, opinion ou conviction. Et nous avons traité ce sujet en trois étapes. La première, c'était au mois de juin, dans la retraite de juin, nous nous sommes occupés de la foi, une des trois vertus chrétiennes. Et pendant trois jours, nous avons médité sur ce qu'était la foi. Le mois passé, nous avons passé avec l'espérance. Et nous nous sommes intéressés à ce que l'Écriture nous dit de l'espérance. Et enfin, nous vous avons annoncé que cette dernière retraite de l'année, eh bien, nous parlerions ensemble, nous écouterions ensemble ce que le Seigneur a à nous dire au sujet de l'amour. Ainsi, c'est vertus théologales, comme on les appelle, qui nous viennent de Dieu et qui résument la doctrine chrétienne, eh bien, nous voulons espérer que vous n'aurez pas seulement des opinions à ce sujet, mais de véritables convictions. Et au mois d'octobre, nous avons souligné l'importance de ces sujets. Car en étudiant la foi, nous nous sommes aperçus que l'Écriture nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et nous voulons croire que vous êtes tous des personnes qui avez le désir de plaire à Dieu. Alors, ça vaut la peine d'étudier ce qu'est la foi. Puisque sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ce que nous avons discerné, c'est que la foi, selon l'Écriture sainte, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez la foi, eh bien, il faut lire la Bible. Il faut s'imprégner de ce que dit l'Écriture, et c'est cela qui va nous donner aussi une vie de prière exaucée, parce qu'on va à Dieu avec sa révélation. Tu as dit cela, Seigneur. Je suis dans cette situation et je te rappelle tes promesses. Et je m'empare de ce texte et j'y crois de tout mon cœur. Et alors, on le voit nous exaucer. De sorte que, comme nous le disions l'autre soir dans une réunion, notre vie de chrétien ne devrait pas être une vie de plainte, de murmures, mais une action de grâce continuelle. Quelles que soient les circonstances que nous devons traverser, eh bien, quand nous croyons, ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous avons des actions de grâce à lui rendre. Et cela, tous les jours. Nous avons, en examinant le sujet de l'espérance, été frappés aussi de ce que nous trouvons dans l'Écriture. Nous devons être toujours prêts à répondre à quiconque nous demande la raison de l'espérance qui est en nous, nous devons être prêts à y répondre. Alors il faut savoir ce que c'est que l'espérance. Et nous avons vu que, en dernier lieu, l'espérance, c'est le retour de Jésus-Christ. Et nous désirons de tout cœur que vous soyez animés par cette certitude. Vous savez, vous me direz, mais il y a 2000 ans qu'il a dit cela. Oui. Mais la promesse qu'il viendrait, elle a été faite des milliers d'années avant. Est-ce qu'elle s'est réalisée? Oui. Alors, la promesse de son retour, il l'a fait avant de retourner dans le ciel, où il a été élevé dans une gloire aussi haute que son abaissement a été grand, eh bien, nous savons qu'il reviendra. Même s'il y en a qui doutent, c'est notre espérance vivante, notre espérance bienheureuse, et quand on est animé par cette espérance, eh bien, nos soucis passent au second plan, parce que Dieu les prend. Et alors, nous avons aussi constaté, et je l'ai rappelé l'autre jour, dans la précédente étude du mois d'octobre, que sans l'amour, on pourrait avoir tous les dons, dons d'orateur, prédicateur, tout ce que vous voulez, même un grand dévouement pour les autres, être en plein dans le social, c'est ce que beaucoup aiment aujourd'hui, n'est-ce pas? Les questions sociales, bon. Et puis, si nous n'avons pas l'amour, qu'est-ce que nous sommes? Rien. Alors, donc, ce sont des sujets importants. Et nous avons été poussés, pour cette année, de prendre ces sujets importants. La foi, l'espérance et l'amour. Car la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Alors, mes amis, nous allons simplement nous laisser accueillir par le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Quand j'étais en prière, eh bien, j'ai entendu me dire ceci. Cette parole que vous avez, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est ce que Jésus nous dit au début de cette retraite. Et dès ces premiers instants, nous demandons à Dieu que les paroles du Christ nous pénètrent. Et l'exhortation qu'il nous fait, tout en nous accueillant avec tant d'amour, il nous dit justement, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et cela tous les jours. Ce verset se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Que Jésus ait pu être aimé de son Père, vous le comprenez facilement. Quand vous regardez la vie qu'a eue Jésus, qui était sans cesse l'expression des pensées de son Père, les actions qu'il avait vues faire par le Père et qu'il était capable d'accomplir comme le Père les faisait. Bien quand vous pensez à cela, vous n'êtes pas étonné. Mais que Jésus vienne vous affirmer maintenant qu'il vous aime de la même manière que le Père l'a aimé, ça devrait bouleverser votre vie. Et cette parole, que vous recevez, non pas de moi, mais que je reçois aussi pour moi, dans cette soirée du 5 novembre, ou du 6 novembre, pardon, elle me pénètre. Si c'est vrai, que le Seigneur nous aime comme son Père l'a aimé, ça me donne un avenir extraordinaire. Même s'il y a des souffrances. Car Jésus a connu la souffrance. Mais il pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours, pas quelquefois. Au fond, une vie authentiquement chrétienne, c'est une vie qui peut parler des exaucements de prière. Pas simplement de demande de prière. On reçoit des lettres où l'on nous demande de prier pour ceci, pour cela. Mais, si souvent, on ne nous parle guère de ces exaucements. C'est vrai qu'il nous a exaucés. Et nous pouvons souligner que nous connaissons quelque chose de l'amour du Père. Alors, ce soir, plusieurs ne sont pas encore arrivés. Comme on vous l'a dit chaque fois, nous vous présenterons le premier message dès demain matin, quand tous seront là, pour que personne ne soit frustré. Mais je vous lirai ce soir les quelques textes que j'ai mis à la page 2. Quelques textes de l'Écriture sainte concernant l'amour de Dieu. Quand vous avez vos Bibles et que vous feuilletez cette parole, vous y trouvez l'amour de Dieu dès les premières pages jusqu'aux dernières. Et je n'ai cité que quelques versets, mais je voudrais que vous connaissiez bien, dans le début de la Bible, c'est-à-dire dans le Deutéronome, dans l'un des saints livres que l'on attribue à Moïse, si on croit à l'inspiration de l'Écriture, nous lisons au chapitre 33e, au terme du ministère de Moïse qui a conduit Israël de l'Égypte à travers le désert pour l'amener au pays de la promesse, au pays de Canaan, nous lisons au chapitre 33e. Je pense que vous avez surtout la version seconde. Alors, je me permettrai de lire dans la version seconde pour que ce soit plus facile pour vous de lire. Chapitre 33e, verset 3. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez dire aussi oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Oh, si déjà ce soir, nous pouvions avoir cette attitude. Vous aimeriez peut-être mieux être à la droite et à la gauche du Seigneur, comme deux des disciples de Jésus, Jean et Jacques, poussés par leur mère, qui auraient voulu les voir, un à droite, l'autre à gauche. Mais le Seigneur dit, c'est impossible, ça c'est mon Père qui décide ça. Mais est-ce que ça vous plaît d'avoir une place à ses pieds? Là, il y a de la place. Si vous voulez être à ses pieds, vous avez la place. Et vous serez béni dès ce soir, si vous comprenez cela, si vous avez l'humilité de rester à ses pieds. Oui, il aime les peuples. Il l'a dit, je le crois. Et j'en fais l'expérience. Tous ces saints, ce sont ceux qui se sont séparés du monde, qui ont dit oui au Seigneur et non au monde et à ses influences. Tous ces saints sont dans ta main. Et quand on est dans sa main, est-ce qu'on peut nous ravir de sa main? Vous avez d'autres passages qui vous le disent? Nul ne pourra me ravir de sa main. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, aux pieds du Seigneur. Ils ont reçu tes paroles. Ils ont reçu tes paroles. Eh bien, c'est le vœu que nous formons pour vous tous et pour moi aussi, que je les reçoive pour pouvoir vous les communiquer. C'est donc dans les premières pages de l'Écriture. Je dis les premières pages parce que le Pentateuque, c'est le commencement de la Bible. Maintenant, toujours dans ces premières pages du Deutéronome, mais je reviens un peu encore en arrière, au chapitre 6. Qu'est-ce que nous entendons? Le fameux schéma Israël. Écoute Israël. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Versets 4 à 9. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous êtes venus ici pour entendre les paroles d'amour du Seigneur, mais aussi pour répondre à son amour. Car si nous, nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés, le premier, hein. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Toutes les affections de notre cœur, vous devez réclamer cela au Seigneur. Seigneur, donne que les affections de mon cœur t'appartiennent. Alors votre vie changera. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous allez vous laisser influencer dans votre âme par la parole de Dieu et croire de toute votre âme et de toute votre force. Donc parce que il y aura des courants contraires, mais je crois quand même de toute ma force que j'ai à aimer l'Éternel. Et ces commandements que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Il ne faut pas que les commandements de l'Écriture restent dans la Bible. Il faut que notre vie soit conséquente avec ce que nous connaissons. Nous voulons vivre ce que nous connaissons. Je lis plus loin. Chapitre 7, versets 6 à 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi.
trouvez pas que c'est merveilleux, ça? Parce que si vous regardez à vous-même, vous dites, c'est pas possible. Qu'il aime d'autres, oui. Hein? Mais qu'il nous aime de cet amour, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. C'est spécialement d'Israël qu'il est question. Qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Si vous pouviez dire cela au pied du Seigneur, je suis le moindre de tes serviteurs, mais je t'aime. Mais parce que l'Éternel vous aime, voyez cette affirmation, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà qui vous délivre du bord de l'an 2000. Hein. Mais c'est ça la parole. Si ça ne vous dit rien, ça ne vaut pas la peine d'avoir une Bible. Mais la Bible, il faut l'avoir dans notre vie, dans notre cœur. Alors il faut la lire plutôt que de regarder la télévision. Si vous lisiez la parole, mais l'évangélisation du monde serait rapide. Parce qu'on verrait des vies réellement consacrées. On verrait des hommes et des femmes qui sont en relation réelle avec Dieu. Et qui le manifestent. Et qui ne se plaignent pas, mais qui l'adorent. Car c'est ça que le Seigneur attend de nous. Je vous laisse méditer là-dessus. Maintenant, nous allons jusqu'au milieu de la Bible. Il y aurait évidemment une foule de textes que j'aurais pu mettre en avant, mais j'en montre au début de l'Écriture, au centre de l'Écriture, Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7. Là, nous entendons l'auteur du Cantique des Cantiques qui dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Le cœur, c'est ce qui aime, que vous soyez toujours conscient que Dieu vous aime et que vous puissiez le dire autour de vous. À ceux qui ont tellement besoin d'amour. Mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. À quoi ça sert le bras? C'est la force qui délivre. Comme un sceau sur ton bras, que vous ne doutiez jamais de la puissance de Dieu. Alors, vous serez émerveillés. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de jaffe. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il n'attirerait que le mépris. Qu'est-ce qui a fait ça et qui n'a reçu en retour que du mépris? Qui est celui qui a laissé la maison par amour pour venir chercher et sauver ce qui était perdu? C'est Jésus. C'est toujours ainsi. Mais ça vaut la peine. Maintenant, nous allons dans les prophètes. Je laisse Ésaïe. Et nous arrivons à Jérémie. Chapitre 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et qu'est-ce qu'il dit? De nouveau. Je t'aime d'un amour éternel. Donc, depuis quand est-ce que vous avez été aimé par Dieu? Depuis votre conversion seulement? Bien avant. Dans l'éternité. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Est-ce que vous le croyez? Dans le temps présent où tout est bouleversé, je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront des fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur les montagnes d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez les cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites, Éternel, délivre ton peuple. Le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Et nous avons assisté en partie à ce commencement de délivrance. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaine. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Puis vous pouvez continuer. Les promesses de Dieu dont nous voyons en partie déjà l'accomplissement, se réaliseront d'une manière totale et complète. Nous lisons maintenant dans l'Évangile de Jean. Au chapitre troisième. Ce verset bien connu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset qui a été le moyen de salut d'une multitude de personnes. Je ne sais pas ce qu'il vous dit à vous ce soir. Comment est-ce que nous savons que Dieu nous aime? Est-ce que nous avons une preuve de son amour? Quand nous regardons la nature, les œuvres que Dieu a faites, il est assez facile de croire que Dieu existe. Qui est l'auteur de toutes ces choses? Mais pour avoir la révélation de son amour, ce n'est pas tellement dans les œuvres qu'il a faites que nous la trouvons, c'est dans quoi? Dans l'Écriture, qui témoigne qu'il a envoyé son Fils. Est-ce que c'est vrai que Jésus est venu? Nous sommes dans l'ère dite chrétienne, hein, à la fin de l'ère dite chrétienne. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu a manifesté son amour en nous donnant son Fils. Et qu'est-ce que nous avons fait de son Fils? Qu'est-ce que le monde a fait de son Fils? On l'a crucifié. Et alors, vous vous imaginez qu'il y a un parti politique qui peut surpasser ce que Jésus a voulu faire? Et qu'il faut être dans ce parti-là pour être sûr qu'on va réussir? Est-ce que c'est ça votre chemin? Est-ce que c'est ça votre espérance? Voyez-vous, il nous faut revenir à Dieu. Nous l'avons abandonné. Nous n'avons plus cette relation personnelle, immédiate, avec le Seigneur. Et cela est possible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui... C'est à votre disposition. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez-vous, la vie éternelle, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un qui nous habite. Alors nous passons plus loin. C'est simplement pour vous montrer que toute la Bible est remplie de cet amour. Dans l'Épître aux Romains, après les Évangiles, Romains chapitre 5, je lirai depuis le commencement du chapitre. Ayant donc été justifié sur le principe de la foi, qu'est-ce que nous avons? Nous devons avoir par la foi la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Est-ce que nous l'avons? Et par qui nous l'avons? par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, donc vous voyez que c'était nécessaire d'être occupé de la foi avant de parler de l'amour, hein, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Est-ce que nous sommes ballottés dans la grâce? Bien, est-ce que nous demeurons fermes dans la grâce? Et puis pour l'avenir, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions dans quoi? Dans les afflictions donc, mes amis, les afflictions ne sont pas contre nous. Si vous croyez que Dieu vous aime, vous acceptez les afflictions. Parce que c'est un moyen que Dieu emploie pour nous façonner à son image et à sa ressemblance. Et nous voilà réconciliés avec toutes les afflictions qui peuvent nous arriver. Et même, il m'est arrivé, quelquefois, quand ça allait apparemment trop bien, de me demander pourquoi. Parce que si Dieu m'aimait, il m'affligerait. Ça peut arriver. Alors, on n'est pas étonné d'être dans des épreuves quand on connaît Dieu comme Père. Mais on se dit, comment va-t-il s'y prendre pour nous libérer et pour nous délivrer? Et est-ce qu'il nous donnera la patience d'aller jusqu'au bout? Et c'est, comme je l'ai dit souvent, c'est le dernier quart d'heure qu'il faut avoir. Et dans le dernier quart d'heure, il nous donne la délivrance. Et pour les parents qui ont peur pour leurs enfants, croyez-le, Jésus nous a donné l'histoire de l'enfant prodigue et il nous a montré un père qui n'a pas vissé son enfant, il l'a laissé partir. Tu veux partir? Bien. C'est pas le père qui l'a mis dehors. Mais il a attendu quoi? Son retour. Avec une certitude absolue. Et pour qu'il ait été à sa rencontre, c'est qu'il devait regarder du bon côté. D'où le fils reviendrait. Et un jour, il est revenu. Et alors, il y a eu la joie dans la maison. Voyez-vous, c'est cela qu'il nous faut. Retrouver l'enseignement du Christ qui a voulu nous montrer que ce dont nous avons besoin, c'est de la patience. Mais pas de doute, ils reviendront. Ne pensez pas, oui, ils ont confessé quand ils étaient jeunes et puis ils ont perdu leur salut. On ne perd pas son salut. Et l'enseignement que vous leur avez donné demeure, tôt ou tard. Tout à coup, ce jeune homme qui avait dépensé tous les biens de son père, qui avait tué mentalement son père, donne-moi le bien qui doit me revenir, au fond, tu mets trop de temps pour mourir. Je veux l'argent maintenant. Et bien un jour, il a espéré que son père était en vie, quand il était avec des cochons. Il a fallu qu'il aille jusque-là. Et nous, on voudrait toujours épargner nos enfants. On leur dit la vérité, on leur annonce ces choses, mais on ne doute pas que la parole de Dieu, tôt ou tard, agira. Tout à coup, il s'est souvenu des esclaves de son père. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le père traitait bien ses esclaves? Bien sûr. Le père était bon avec ses esclaves, pas seulement avec ses fils, mais avec ses esclaves. Et il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, donc il les nourrissait bien. Et moi, ici, lui qui était le fils, je péris de faim. Je retournerai vers mon père. C'est une décision qu'il prend. Et voyez-vous, sachez attendre que Dieu pousse vos enfants à cette décision. Je retournerai vers mon père. et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La conviction de péché, c'est pas le Père qui la lui a donnée. Hein. Quand il est rentré, il lui a pas dit, ben, qu'est-ce que tu as fait, hein? Tu te ramènes en guenilles, en haillons. Il n'y a fait aucun reproche. Mais nous, nous sommes toujours avec des reproches. Nous ne ressemblons pas à notre Père des cieux. Il faut que nous retrouvions cela. J'ai un Père parfait, un Père qui est bon, et j'ai à être semblable à ce Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Regardez ce que le Fils disait de son Père. Et l'exemple qu'il nous donne, moi je vous aime comme mon Père Céleste m'a aimé. Je veux croire que d'ici peu de temps, vous connaîtrez certaines délivrances. Dans vos propres circonstances, qui vous ont affligé jusqu'à ce jour. Car vous l'avez vu, et non seulement cela, chapitre 5, verset 3, mais nous nous glorifions dans les tribulations. Donc nous ne nous plaignons pas dans les tribulations, mais nous nous glorifions comme il m'aime pour me faire cela. Alors qu'on se dit, il nous punit. On est toujours avec un Dieu qui punit nous. Alors qu'il nous aime, mais voilà, il nous arrive une chose, oh, c'est une punition. Pas nécessairement. Puisqu'il nous aime dans la tribulation, nous nous glorifions dans les tribulations. Sachant que la tribulation, qu'est-ce qu'elle produit? La patience. On en a besoin. Nous lui demandons si souvent la patience. On lui dit dans la prière, Seigneur, rends-moi patient, puis il m'envoie une tribulation, puis. Mais pourquoi tu m'envoies ça? Mais j'exauce ta prière. Tu m'as demandé de la patience. Alors je te donne le moyen d'être patient. C'est cela que nous devons comprendre. Être assez simple pour prendre Dieu au mot. Et la patience, qu'est-ce qu'elle produit? L'expérience. Et l'expérience, l'espérance, pas le suicide, nous produit l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, dont nous nous occuperons, il est versé où? Dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc tout nous est donné. Le Père a donné le Fils. Le Fils nous a donné, avec le Père, son esprit. Il nous a été donné. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. À peine, verset 7, mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve, donc on a une preuve de son amour, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Vous rendez-vous compte que vous êtes réconcilié avec Dieu? Donc ça doit marcher. Vous êtes réconcilié avec lui. Donc vous pouvez être sûr de lui. Prenez maintenant les versets au chapitre 8. Les versets 38 et 39. Oh, mais peut-être que nous pourrions lire depuis le verset 35. Oh, même depuis le verset 28. Vous voyez, c'est toujours comme ça, hein, quand nous lisons la parole. On veut savoir ce qu'il y a avant encore. C'est pour ça qu'on la mange, ta parole. Les paroles, elles ont été trouvées, je les ai mangées. Nous savons, est-ce que nous savons quelque chose? Nous savons du reste que toute chose travaille, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, moi je trouve ça, c'est extraordinaire, hein, vous avez été connus à l'avance, et vous avez été prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous travaille, pour que de plus en plus nous ressemblions à son Fils. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. C'est donc toute l'œuvre de Dieu en nous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quand vous pensez qu'il a donné sa vie pour nous, alors que nous étions des pécheurs, maintenant que nous l'avons accepté comme sauveur, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Et maintenant, qui accusera des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? La seule personne qui pouvait nous condamner, c'était qui? Le Christ, qui était sans péché. C'est Christ qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, verset 35, qui nous séparera de l'amour du Christ? Voyez-vous, si nous avions ces textes dans notre mémoire et au fond de notre cœur, quand nous passons par l'épreuve, ils nous seraient rappelés par le Saint-Esprit qui habite en nous et qui devient notre mémoire. Nous n'irions pas chercher une Bible pour trouver, pour piquer un verset, mais étant donné que nous sommes dans telles circonstances, le Saint-Esprit nous rappellerait une parole que notre foi prendra au mot, nous nous emparerons de cette parole et nous irons à Dieu dans l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Paul passe en revue toutes les épreuves qui peuvent arriver à quelqu'un. C'est à cause de toi, selon qu'il est écrit, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais par qui est-ce que nous sommes vainqueurs? Par lui. Donc il faut vivre avec lui, il faut vivre de lui, car j'ai l'assurance, pas l'espérance seulement, mais l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est quelque chose, les paroles de Dieu. Alors nous arrivons maintenant dans les épîtres. Mais quand je lis cela, et j'espère que... Bon, vous me direz, vous ne nous avez rien appris ce soir. Non, je ne vous ai rien appris. Mais je vous ai rappelé ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et si vous avez reçu ces paroles, si maintenant vous les recevez dans votre cœur, eh bien vous verrez que vous irez mieux dans beaucoup de domaines. Je disais que je comprends que Luther, le réformateur, qui était un moine catholique, qui se sentait accusé et qui ne s'en sortait pas, il n'avait pas la paix. Et puis, il s'est mis à lire l'Écriture. Il a trouvé la paix avec Dieu. Une certitude absolue. Mais évidemment, son Église l'a persécuté. Il a tenu bon et il a voulu partager ce qu'il avait compris avec d'autres. C'est les thèses qu'il avait mises sur son Église. Et qu'est-ce que nous apprenons de lui? Dans sa vie personnelle, je vous l'ai peut-être déjà dit, il lisait l'Épître aux Romains une fois par semaine. Alors on se porte bien. Mais vous voyez qu'on a besoin de redire ces choses. Vous voyez, les chanteurs, ils se répètent tout le temps. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez des chansons, vous les connaissez, pourquoi est-ce que vous les connaissez? Parce que ça revient toujours, c'est la même rengaine. Et ça vous reste. Mais la parole aussi devrait vous rester. Et vous dominer est la première pensée que nous devrions avoir quand nous sommes dans une épreuve. C'est une parole du Seigneur. Mais il faut l'avoir lue. Il faut la lire, il faut la croire et il faut le bénir. C'est vrai ce que tu dis, Seigneur. C'est vrai ce que tu dis. Je t'adore. Je ne veux pas douter. Alors on lui demande pardon, justement de nos doutes. Puis de plus en plus, on ne s'occupe plus de ce que nous sommes. Vous n'allez pas tout le temps vous regarder parce que vous n'allez pas vous améliorer depuis votre conversion. Croyez-le bien, la conversion n'est pas l'amélioration du moi. La conversion, c'est le rejet de soi. Renonce à toi. Parce que tant que tu es avec toi, ça ne va pas. Il faut être avec lui. Votre vie, c'est Jésus. Et vous regardez à Jésus. Comme je vous l'ai dit souvent, quand Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Son Fils. Et il vous voit dans les perfections de son Fils. Alors si vous voulez être heureux, regardez le Fils. Et en regardant le Fils, sans que vous fassiez un effort, vous allez être, c'est l'Écriture qui le dit, transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et quand il reviendra, tout à coup, toutes ces faiblesses que nous avons eues seront oubliées, nous serons rendus semblables à lui. Je termine par 1 Jean 4. On arrive dans les épîtres, donc à la fin, mais tout à la fin, j'ai pas eu la place, je vous dirai encore un verset de l'Apocalypse, mais prenons dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 8, chapitre 4, pardon, 1 Jean 4, verset 8, disons depuis le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Par qui vivons-nous? Si nous avons trouvé en Christ notre vie, nous vivons par lui. C'est lui notre vie. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Voyez-vous, ce qui est important, ce n'est pas d'essayer de mesurer notre amour à nous pour Dieu, c'est de contempler l'amour qu'il a eu pour nous. Alors on s'oublie nous-mêmes, et puis on voit l'amour qu'il a eu pour nous. Mais il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et la deuxième fois, il est répété, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait, en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, pour quelle raison? Parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, vous ajouterez simplement un dernier verset dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5. En bas, Apocalypse. C'est au milieu du verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime. Vous êtes aimés actuellement. Par celui qui nous a accueillis ce soir et qui nous a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Nous allons prier. Dieu notre Père, tu viens de nous rappeler que toi, tu as constaté l'amour que tu as eu pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, ton Fils, ton unique, est mort pour nous. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ce que tu avais de plus cher à ton cœur. Et il a tout accompli pour que nous puissions être justifiés à ses propres yeux. Et maintenant, à cause de toi, de ton œuvre, Seigneur Jésus, nous sommes tenus pour justes, tenus pour saints, et déjà, en quelque sorte, glorifiés. Ceux que tu as préconnus, tu les as prédestinés. Ceux que tu as prédestinés, tu nous as appelés. Et si nous avons répondu à ton appel, nous savons que nous sommes rachetés, sauvés, justifiés et déjà en quelque sorte glorifiés, puisque nous savons que la mort ne mettra pas fin à notre existence, parce que tu nous as donné la vie éternelle. Nous te demandons que ce soir, nous puissions repasser dans mon cœur ces textes et que ce soit notre préparation au message que tu veux nous donner dès demain. Nous te le demandons ensemble en te bénissant et en t'adorant de nous avoir révélé tant d'amour par ta parole. Amen.
Une nuit de repos, et si hier soir le Seigneur, comme il le fait chaque fois, nous a accueillis lui-même par une de ses merveilleuses paroles, il m'en a donné une autre ce matin, car en vous quittant hier soir et en saluant les personnes qui avaient participé à ce début de retraite, quelqu'un m'a dit « Je vous remercie pour les merveilleuses promesses que vous nous avez données au sujet de nos enfants. » Mais, ajouta-t-elle, « Y a-t-il aussi des promesses pour les maris qui ne sont pas convertis ? Ou pour les femmes qui ne sont pas converties ?» Bien oui, il y en a, et nous aurons l'occasion de les souligner, ces paroles que vous devez croire pour qu'elles deviennent vivantes dans vos cœurs et que le mot d'ordre de ce matin vous possède. Et ce mot d'ordre que j'ai reçu, c'est celui-là, que votre cœur ne se trouble pas. Point. Et ne s'alarme pas. Gardez cette parole dans votre cœur pour cette journée et pour celles qui viendront. Hier soir, le Seigneur lui-même nous disait, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Nous aurons l'occasion de nous occuper de ce que veut dire demeurer dans mon amour et comment on peut demeurer dans son amour et avoir cette vie de paix. Car, comme vous l'avez remarqué, quand on trouve un verset,
par exemple, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, on a tout de suite envie de voir ce qui était avant. Alors, qu'est-ce qu'il était dit avant cette parole ? Je vous laisse la paix. Verset 27. Je vous laisse la paix, disait Jésus, la nuit même où il fut livré. Et puis il ajoutait, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous savez que le monde essaye de vous donner quelque chose, mais ça ne dure pas. Et puis, quand le monde nous a donné quelque chose, il ne l'a plus. Tandis que ce que le Seigneur donne, il le donne pour toujours, et lui ne perd rien. Je vous laisse la paix. Il envisageait déjà ce qui allait arriver dans quelques heures, et comment il allait laisser la paix à ceux qui voudraient bien être délivrés de toute culpabilité auprès de son Père. C'est quelque chose d'infiniment merveilleux. Je vous laisse la paix. Lui allait à la croix, mais en accomplissant l'œuvre de la croix, il allait vous donner une paix totale au sujet de toute votre culpabilité. Connaissez-vous cette paix? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous l'a donnée. Mais maintenant, vous devez connaître la paix que lui a, que lui conserve. Il a accompli une œuvre qui nous donne la paix au sujet de toute notre culpabilité. Mais il nous parle de sa paix, la paix qu'il a eue au travers de toute son existence terrestre. Jésus était dans la paix avec son Père. Et c'est cette paix, la paix du Seigneur dans les circonstances, la paix que vous voyez dans les évangiles, cette paix qui régnait dans son cœur, quelle que soit la situation, eh bien, cette paix, il vous la donne. Et vous ne devez pas, si vous êtes sauvés, avoir moins de paix que le Seigneur en avait. C'est sa paix. C'est pas les circonstances qui vous donnent la paix. C'est la paix du Seigneur. Cette paix qu'il avait, elle est pour vous. Vous ne vous en êtes pas emparé jusqu'à maintenant. Emparez-vous de cette paix qui est la paix du Seigneur. Fini d'être troublé au sujet de vos péchés, si vous avez reçu Jésus, si vous êtes allé à la croix, plus de culpabilité. Ne vous laissez pas culpabiliser par l'ennemi qui est Satan et qui voudrait toujours vous enlever la paix. La paix nous a été acquise au prix de sa vie. Il a donné sa vie. Mais il ne donne pas comme le monde donne, parce que quand le monde donne sa vie, il ne l'a plus. Tandis que Jésus est ressuscité, il est vivant. Je vous donne, non pas comme le monde donne, je vous donne la paix, et puis je vous laisse maintenant ma paix. Oh, que cette paix de Jésus devienne votre partage, au travers de toutes les circonstances. Regardez, il a été tenté, mais il est resté dans la paix. Il n'a pas suivi ce que Satan lui disait. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres et qu'elles deviennent du pain. Non, il n'a pas employé sa puissance pour lui-même. Il s'est attendu à son Dieu. Et c'est ce que nous avons à faire. Quand nous nous attendons à notre Dieu, il nous donne des réponses divines. Mais si vous voulez y aller vous-même, vous aurez des réponses humaines. Oh, que le Seigneur vous fasse posséder cette paix que Jésus avait. Il est tenté. Il sait attendre. Il a faim. Et c'était vrai qu'il avait faim. Mais il ne va pas suivre le conseil de l'ennemi, que va-t-il faire? Elle va attendre. Et quand il a attendu, qui sont ceux qui l'ont servi? Les anges. Vous avez toujours ça, cette attente. Si vous savez attendre, dans la patience, vous serez récompensé d'une façon divine. Et c'est cela qui doit devenir notre quotidien. C'est cela qui doit devenir réellement notre vie. Et si vous avez cette vie-là, le monde le saura. Le monde le verra. Vous ne vous demanderez plus qu'est-ce que je dois dire au monde pour évangéliser. Vous serez vous-même l'évangile. Parce que c'est le monde qui vous questionnera. Pourquoi est-ce que vous êtes calme? Pourquoi est-ce que vous êtes tranquille? Pourquoi est-ce que vous ne vous angoissez pas? Vous avez la paix du Christ. Eh bien, c'est la parole qu'il m'a donnée pour vous et que je partage avec vous. Elle est aussi pour moi et je la reçois pour moi aujourd'hui. Et c'est un Seigneur qui sait encore nous parler et nous délivrer de toute crainte. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé et que votre âme ne s'alarme pas. Dieu notre Père, du fond de nos cœurs, nous voulons te dire que nous croyons tes paroles. Nous les saisissons dans la foi en cette journée du 7 novembre 1998. Nous te bénissons parce que c'est une parole vivante, c'est une parole opérante, efficace et qui peut transformer notre vie et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous te remercions du fond de notre cœur. Et nous te demandons que les heures que nous allons passer ensemble soient vraiment des heures divines par ta présence. Et nous te remercions parce que nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus ensemble pour écouter celui qui a été l'homme parfait, qui a glorifié son Père en toutes circonstances et qui nous a aimés jusqu'à la mort. Qu'à notre tour, nous puissions aimer nos frères et être prêts à les servir et même à donner notre vie pour eux et pour leur salut en Jésus-Christ. Garde-nous dans cette journée. Garde-nous dans la communion les uns avec les autres et que nous puissions voir chez nos frères, ton œuvre s'accomplir et nous en réjouir en Jésus-Christ. Amen.